Venu ce soir pour me supporter, m'avoir supporté un an. Vous avez dû m'oublier, alors vous êtes revenu. C'est courageux de votre part. J'espère que je serai à la hauteur. Pour vous parler donc de Saint-Pierre et Rome, le titre est suffisamment évasif justement pour essayer de faire le point et la synthèse, on pourrait dire, de toute cette année consacré dans ces conférences d'histoire à essayer de retracer les rapports qu'il y a pu y avoir au cours de l'ère chrétienne entre la cité spirituelle et la cité temporelle, entre l'Église et l'État. Cycle de conférences qui a été ouvert par notre confrère historien et néanmoins ami, sur M. Seignolle, sur le baptême de Clovis, et qui voudrait être conclu aujourd'hui sur ce qui a été finalement la première premier contact entre l'Église et l'État, entre Saint-Pierre et Rome, entre Saint-Pierre et l'Empire romain, c'est-à-dire ce IVe siècle qui a vu la conversion de la politique au christianisme. Période donc qui est le point de départ de ce que l'on appelle aujourd'hui la chrétienté. Alors pour cela, eh bien, nous essaierons de voir comment il y a eu cette évolution étalée sur près d'un siècle qui a fait passer l'Occident romain païen depuis près d'un millénaire au christianisme. Et il faut bien imaginer que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et que nous avons eu en ce siècle une véritable révolution. Enfin, peut-on dire, enfin, la nature s'est trouvé véritablement uni à la surnature, sans être confondu avec elle, sans être séparé. Enfin, il y a eu véritablement la réalisation du plan divin. Alors, cette réalisation du plan divin s'est passée à tel moment, de façon historique, a été engagée par tel personnage, et si ces hommes-là n'avaient pas été... n'avait pas agi de cette façon, eh bien, le plan aurait pu être, le plan divin aurait pu être peut-être modifié, ralenti, ou alors au contraire accéléré. Alors pour cela, il nous faut d'abord préciser certains thèmes, certains mots rapidement. La question de la politique, qu'est-ce que c'est que la politique? Eh bien, c'est la science de la cité. De la cité dans le sens de nation, si vous voulez, de patrie, pas dans le sens de ville, cité urbaine. C'est donc la politique, la science et l'art du gouvernement des nations. Et à partir de cela, nous avons deux sociétés qui sont mises côte à côte. C'est la société politique et c'est la société ecclésiastique, l'Église. La société politique qui a pour but d'obtenir le bien commun. Donc nos nations, nos gouvernements, normalement sont censés obtenir ou nous guider pour obtenir le bien commun, c'est-à-dire ce qui est désiré comme un bien par tous, les citoyens d'un même pays. Ce bien commun est donc à la fois le bien de la société et le bien de chacune des parties de la société, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, qui sommes citoyens d'une société. C'est résumé en un mot, en deux mots latins, le bene vivendum, le bien vivre, mais non pas au sens hédoniste du terme, bien manger, bien boire, bien se reposer et bien s'amuser, mais le bien vivre, vivre pour atteindre la béatitude. Voilà ce que c'est que bien vivre. La société politique a donc pour but notre félicité. et plus exactement d'assurer pour nous les conditions afin que nous obtenions cette félicité. C'est la condition fondamentale que l'on appelle la paix, mais la paix selon le cœur de Dieu, pas selon les hommes tels qu'on entend aujourd'hui. Deuxième société, la société ecclésiastique, celle des hommes qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ, qui acceptent ses enseignements, qui participent à ses sacrements institués par lui et qui reconnaissent donc l'état, l'autorité du gouvernement qu'il a fondé. Tu es Pierre et c'est Saint-Pierre, je bâtirai mon église, c'est-à-dire le pape et les évêques. Eh bien, cette église, ça n'est pas la cité de la terre, c'est la cité du ciel. Elle est chargée de guider les hommes à leur fin ultime. Et plus exactement, elle est chargée de leur donner la fin ultime. Ce que ne peut pas la société terrestre. La société céleste, l'église le peut. Les sacrements et la doctrine. Ce qu'il faut croire, la foi, ce qu'il faut pratiquer et la grâce pour pouvoir le pratiquer. Et nous voyons entre ces deux sociétés, normalement, en temps de chrétienté, nous voyons un accord, devons voir un accord, et ainsi, comme la cité terrestre accompagne l'homme de la naissance jusqu'à la mort, la cité céleste, l'Église, accompagne l'homme de la naissance, ce baptême, jusqu'à la mort, l'extrême onction. Alors tout le problème sera d'accorder, a été pour les premiers chrétiens d'accorder ces deux sociétés, l'Église et l'Empire romain. Et c'est ce que nous allons voir peut-être dans ces quelques minutes. Comment a-t-on pu convertir en clair l'Empire romain pour en faire une cité terrestre en accord avec l'Église? Et pour cela, je pense que l'on peut distinguer trois étapes. Tout d'abord, comprendre quelle était la situation dans laquelle le christianisme a été injecté, la situation politique, et on pourrait intituler cette partie « Rome contre Saint-Pierre ». La deuxième partie, eh bien, c'est comment la situation s'est renversée et comment Rome est passé à Saint-Pierre, pourrait-on dire. Et la troisième partie, c'est l'Empire chrétien. Saint-Pierre et Rome, Saint-Pierre uni à Rome. Alors, nous n'imaginons pas ce qu'était la société païenne. N'imaginons pas bien quelle était la vie dans un empire qui était traditionnellement païen, fondé sur une religion polythéiste et surtout une religion qui était confondue avec la vie sociale et politique, qui imprègne chaque activité de la vie sociale et politique et même de la vie familiale. Alors on voit un peu en caricature cette multitude de dieux. L'un qui est le dieu des forêts, l'autre qui est le dieu des paysans, le troisième le dieu de la famille, le dieu de la guerre, le dieu de ceci, le dieu de cela. Et pourtant, cela exprime bien l'imprégnation religieuse, l'imprégnation païenne qui était le lot de cette société terrestre, de cet empire. Imprégnation et confusion. Ainsi, dans les familles, par exemple, nous avions tout un ensemble de dieux, divinités, pseudo-dieux, demi-dieux, qu'il nous fallait plus ou moins honorer. Il y a la Vesta familiale, c'est le foyer où brûlent les braises perpétuelles, là où on offre les sacrifices. Il y a le génie familier, eh bien, c'est le serpent qui est peint sur les murs de la maison et qui incarne la force vitale, la lignée de la famille. Il y a Junon, c'est la déesse de la mère de famille. Et de tout cet ensemble de cultes, eh bien, il y a un prêtre. Et le prêtre, c'est qui? C'est le père de famille. Nous voyons déjà là, voyez-vous, une confusion claire entre le rôle civil, civique, on pourrait dire, du père, le rôle familial du père et un rôle religieux, véritablement prêtre. Et si on monte d'un degré, et si nous voyons les corps publics, eh bien les prêtres, ce seront les magistrats. C'est eux qui feront les sacrifices, c'est eux qui prendront les hospices, qui seront chargés de consulter les dieux pour voir si les actions publiques, religieuses ou civiles sont bien en accord avec la volonté des dieux. La carrière religieuse, c'est une carrière politique. Et Cicéron est très fier d'avoir été nommé augure, c'est-à-dire devin, parce que finalement c'est un plus dans son curriculum vitae. Les prêtres païens, ce ne sont pas des intermédiaires avec les dieux, ce sont des administrateurs, des conseillers religieux. Et au-dessus de cette pyramide de prêtres, finalement, de prêtres et de prêtresses, qu'est-ce que nous trouvons? Eh bien, nous trouvons le Pontifex Maximus, le plus grand des pontifes, c'est-à-dire l'empereur. Tout premier à avoir revêtu cette dignité et en même temps possédant un pouvoir politique et militaire, c'est Jules César. Et après cela, après lui, tous les empereurs, à partir d'Auguste, recevront cette dignité de Pontifex Maximus. Donc l'empereur est un prêtre, et le plus grand des prêtres, c'est le grand prêtre, c'est le pape de l'époque. Il a la haute main sur la religion, et la religion, finalement, n'est plus qu'un instrument dans ses mains, instrument pour la paix publique. Et on verra Auguste dépenser 100 millions de sesterces pour relever, restaurer le paganisme traditionnel, relever les temples, les autels des dieux, parce que la religion est une religion de cité, elle assure la cohésion. Et on est citoyen, si on est citoyen, on a droit, des droits religieux. Et si on n'a pas de droits religieux, on n'est pas citoyen. D'où, vous imaginez tout de suite, la terrible condition dans laquelle vont se trouver les membres de ces communautés religieuses qui, au premier siècle de notre ère, sont nommés les chrétiens. Parce que eux, ils ne peuvent plus rentrer dans cette vie religieuse de la cité. Et donc, ils ne sont plus des citoyens. Et ils connaissent les difficultés inextricables que nous pouvons connaître d'une certaine façon aujourd'hui. Et oui, parce que la vie religieuse, la vie de la cité étant une vie religieuse, eh bien, de la famille, de l'école, dans le travail, dans le commerce, eh bien, il y a cette imprégnation de vie religieuse. La viande qui est vendue à l'étal de la boucherie, c'est une viande qui a été sacrifiée aux dieux. Ah, d'où les problèmes. Chrétien peut ou il ne peut pas la manger? Pour un païen, ça ne fait pas de problème. Les païens sont adeptes de tous les cultes, de tous les dieux, de toutes les déesses. Mais pour un chrétien, ça pose une difficulté. Alors saint Paul est obligé de trancher la question. Eh bien, vous pouvez en manger si ça ne scandalise pas les autres. Mais s'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas votre geste, alors, eh bien, il faut vous en abstenir. Les parents aussi doivent se poser des questions vis-à-vis de leurs enfants qui sont périodiquement appelés à faire les figurants dans les cortèges religieux et aller brûler des grains d'encens à telle déesse ou à tel dieu. C'est une situation concrète qui peut devenir invivable. Et le couronnement de cette pyramide de religion, c'est le culte de l'empereur. Jules César a été divinisé à sa mort en 44 avant Jésus-Christ. Son empereur qui va lui succéder, Octave, va être appelé Dieu, fils de Dieu, sauveur de Dieu. Pourquoi? Parce que ce grand empereur Auguste donne la paix à la cité et cette paix est considérée comme un bien divin. Alors, elle est donnée par un Dieu vivant. Et tout au fur et à mesure que le christianisme s'implante dans l'Empire romain, eh bien, les conflits naissent de plus en plus terribles. parce que les chrétiens sont de plus en plus nombreux, qu'ils sont donc de plus en plus nombreux hors de la vie civique, alors les païens les accusent d'être des sans-dieux, des athées. Ils sentent bien que cette religion chrétienne est donc une religion qui s'écarte et qui donc peut s'opposer à leur civilisation. Et donc, il n'y a pas de solution. Soit on assimile les chrétiens, soit on les détruit. On va tenter de les détruire par tout un ensemble de persécutions qui sont d'abord larvées, latentes, et puis finalement qui sont au début du IIIe siècle, qui sont véritablement par des édits. On pourchasse telle catégorie de chrétiens, les prêtres, les évêques, où on les spolie de leurs biens, on les exile. Ils sont réservés à des morts infamantes s'ils ne veulent pas abjurer. C'est la première tentative, finalement, le premier rapport entre la cité terrestre et la cité céleste, entre l'État et l'Église, et un rapport de conflit. Et là-dessus, Tertullien, auteur chrétien du début du IIIe siècle, à Carthage, a cette phrase qui résume tout, le sang des chrétiens sera la semence de la chrétienté. Sang des martyrs, semence de la chrétienté. Et devant la persévérance des chrétiens, alors les empereurs vont se mettre à réfléchir et vont tenter cette deuxième politique qui va être l'assimilation, le syncrétisme. À partir de la du milieu du IIIe siècle, les empereurs non chrétiens vont essayer de faire rentrer dans leur religion, dans leur ensemble de religions, la religion chrétienne. Le premier qui tente cela, c'est un doux dingue, l'empereur Elagabal, qui se dit prêtre du Baal d'Emez, un dieu parmi tant d'autres, et qui va dans son panthéon, qu'il construit sur le sommet de la colline Palatin, va honorer Jésus-Christ, va installer une statue de Jésus-Christ. Plus sérieux seront les tentatives de Galien et d'Aurélien à partir de 260. Pendant un demi-siècle, les empereurs vont proclamer la tolérance vis-à-vis du christianisme. Nous sommes dans une période de trouble dans l'Empire. Il y a de plus en plus de chrétiens. Les empereurs se font défaire par les armées. Alors, c'est le moment où il y a les partis politiques ou les partis militaires et il faut rassembler le plus de monde derrière soi. Alors, avec ce calcul politique, les empereurs vont en quelque sorte tendre la main aux chrétiens. Et le christianisme connaît réellement, pendant 40 ans, à partir de Galien et d'Aurélien, une ère de paix, une ère de tolérance. Mais ne nous y fions pas, les empereurs essayent d'amener dans leur camp le christianisme et finalement de réduire le christianisme à une branche de la mythologie. En 260, donc, Galien proclame un édit de tolérance qui met fin à de violentes persécutions. Et nous voyons, d'une certaine façon, cet empereur se posait comme le juge suprême des causes religieuses, au point même que les chrétiens vont avoir recours à lui, plus exactement à son successeur, Aurélien. C'est la première action politique en faveur du christianisme d'un empereur qui est païen, qui n'est pas baptisé. En 272, des chrétiens de Rome ont recours à lui pour expulser un intrigant, Paul de Samosate, qui est évêque hérétique d'Antioche. Il y a déjà des hérésies dans le christianisme, et il y a donc des évêques en compétition, l'hérétique et le catholique à Antioche. L'hérétique refuse de quitter la maison épiscopale, alors il faut faire donner la police. Et pour qu'on façonne la police, pour une religion qui n'est pas foncièrement reconnue, elle est tolérée, eh bien, on a recours à l'empereur, au Pontifex Maximus. Et Aurélien, tout païen qu'il est, va trancher en faveur de l'Église catholique, en faveur de l'évêque qui est en communion avec l'évêque de Rome. C'est ce même empereur qui, sur ses monnaies, se proclame Deus et Dominus, le dieu Aurélien. C'est une situation un peu particulière. De fait, les empereurs se rendent compte que cette politique de tolérance, de main tendue au christianisme, est une politique qui va échouer. Ils ont eu un demi-siècle pour constater cela, et ils sont obligés d'en tirer effectivement les conséquences. Le christianisme a profité de la tolérance qui leur était accordée. On a bâti de vastes et larges églises, dit Eusèbe de Césarée. Les communautés sont de plus en plus importantes. Il y a un véritable tissu chrétien qui s'est créé à travers tout l'Empire, mais le christianisme n'est pas passé, n'est pas rentré dans la pensée mythologique et continue de faire une opposition à tout ce qui peut venir de quant à la morale ou quant au dogme qui est opposé au christianisme. Mais ce qui est très important de saisir, au-delà de cette opposition entre l'Empire et l'Église, c'est que pour le Romain de base de l'époque, eh bien, il y a confusion intime entre les deux pouvoirs, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. L'empereur, c'est le grand pontife. Le grand pontife, c'est l'empereur. Et les deux choses sont mêlées. Et on ne, n'imagine pas une action de la vie quotidienne sans un sacrifice. On y croit, on n'y croit pas, c'est égal. On n'y croit même plutôt pas, parce que ces sacrifices officiels n'ont absolument n'ont plus qu'un caractère formaliste. Il n'y a pas de foi païenne. Au contraire, cette mythologie païenne est, comme disent certains païens, il n'y a plus que les gosses en classe qui y croient. C'est parce qu'ils apprennent dans les abécédaires à décliner Vénus ou Jupiter. Mais de fait, il y a cette façade formaliste religieuse qui imprègne, malgré tout, tous les actes civils de l'Empire. Et cette façade fait qu'il y a confusion entre les deux plans, le plan temporel et le plan spirituel. Ou plus exactement, il y a absorption du spirituel dans le temporel. Alors, eh bien, le christianisme, qui lui est fondé sur une église institutionnalisé, hiérarchisé, ne va faire que constituer un hiatus dans cette société. Il faut qu'il y ait la disparition de l'un ou de l'autre. C'est pas possible. On ne peut pas continuer ainsi. Par nature, l'Église bouscule l'ordre païen antique parce que par nature, elle réclame la distinction des deux ordres. L'ordre temporel et l'ordre spirituel, et la subordination de l'un à l'autre, la subordination du temporel au spirituel. Alors, eh bien, il y a l'affrontement que vous connaissez, l'ère des martyrs, au début du IVe siècle, pendant une dizaine d'années, de 303 à 313. L'ensemble de l'Empire, mais tout spécialement l'Orient, va être secoué par des soubresauts d'une terrible persécution inaugurée par Dioclétien, poursuivie par Maximin et surtout Galère, l'empereur Galère. Et là, le sang des chrétiens va couler à flot. C'est la plus terrible, on l'appelle l'ère des martyrs. Mais cette persécution s'achève de par la constance des chrétiens. Une impossibilité d'éliminer le christianisme. Au point qu'un empereur, l'empereur le plus persécuteur, Galère, est forcé d'accorder en 311 la tolérance chrétienne et revenir au statut antérieur à la persécution de Dioclétien. Mais là, ça n'est plus suffisant. Il faut passer un degré, il faut passer à la conversion de l'Empire. C'est ce que nous pouvons voir maintenant, comment Rome est passée à Saint-Pierre. Et il est passé, il faut le dire, de façon providentielle, par le fait, par la volonté d'un seul homme qui s'appelle Constantin, l'empereur Constantin, qui naît d'un païen modéré, Constance, qui lui-même a été empereur, qui n'a jamais appliqué, ou de façon très molle, les édits de persécution contre le christianisme, qui a été marié d'ailleurs à une chrétienne en première noce, l'impératrice, celle qui deviendra l'impératrice Hélène. Et Constantin a vécu dans une ambiance chrétienne dans sa jeunesse, mais il n'a jamais été baptisé. Initialement, quand il a acquis le pouvoir à partir de 306-307, il s'est proclamé successeur de Jupiter, confrère d'Hercule, frère d'Hercule. Et puis, ensuite, il a renoncé à ses fariboles. Il est passé adepte du culte du soleil, comme tenant son pouvoir du soleil, le culte solaire. Et puis, finalement, il y a cette conversion qui est miraculeuse. Lorsque, opposé à un anti-empereur, pourrait-on dire, l'usurpateur Maxence, en octobre 312, il, avant de foncer sur Rome et de rencontrer son ennemi au pont Milvius, un peu au nord de Rome, eh bien, les auteurs chrétiens, Lactance et Eusèbe de Césarée, nous rapportent qu'il a cette vision. Dans le ciel, il voit le monogramme du Christ, donc le chi et le rho, les deux premières lettres en grec de, qui indiquent notre Seigneur Jésus-Christ. Et en dessous, cette phrase, in signo vinces, par ce signe, tu vaincras. On s'est posé la question, Lactance parle d'un rêve, Eusèbe de Césarée parle d'une vision, est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre les deux? C'est pas très clair. Alors on dit, ben, finalement, Eusèbe de Césarée a peut-être inventé, il écrit d'ailleurs tardivement, plus de 20 ans après 312. Alors est-ce que ça n'est pas une légende tout ça? Et on peut dire aujourd'hui de façon certaine que ça n'est pas une légende grâce aux fouilles que l'on a fait sous Saint-Pierre de Rome ou sur la confession de Saint-Pierre, l'on a découvert un graffiti de l'époque, tagage de l'époque, qui indique, qui est chrétien lui, et qui représente ce monogramme du Christ avec en dessous la phrase. Inox signo vinces. Donc s'il y a légende, elle s'est formée vers 315, trois ans après l'affaire, autant dire que l'affaire justement est claire, réglée, hein. Il y a vraiment eu une intervention divine. Et Constantin l'a rapporté très tôt. Il a eu une vision ou un rêve, et il a eu quelque chose de divin qui lui indiquait qu'il fallait qu'il se rallie au christianisme. Et d'ailleurs, sa conversion ne fait aucun doute. Sa conversion ne fait aucun doute parce que dès le début, dès 312, dès qu'il accède à Rome, après avoir battu Maxence, eh bien, il va faire passer un ensemble de lois qui donnent la tolérance au christianisme et qui va faire plus, qui va donner un véritable régime de faveur au christianisme. Et ces actions législatives sont absolument incompréhensibles si Constantin n'est pas animé d'une certaine foi chrétienne. Parce que le christianisme, même s'il est suffisamment important pour être considéré comme un parti respectable dont il faut se ménager les voies, le christianisme n'est encore qu'une minorité dans le gigantesque empire païen. Et Constantin prend donc le risque de se mettre à dos tout le paganisme. Et tout le paganisme, c'est d'abord toute l'aristocratie. Le Sénat est entièrement païen, quelques individualités près. L'armée restera païenne jusque toute la, 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 tout le règne de Constantin, de ses successeurs, au point que Julien l'Apostat, 50 ans après, peut faire sacrifier son armée à des dieux païens sans rencontrer l'ombre d'une opposition. Donc il fallait un certain courage, et ce courage, eh bien, ne pouvait venir que véritablement d'une conversion. Une conversion au christianisme. C'est donc le fameux édit de Milan, qui n'a jamais existé, c'est simplement une décision entre les deux empereurs de l'époque, Constantin, empereur en Occident, et Licinius, empereur en Orient, en janvier 313, qui donne à l'Église, pour la première fois, un statut juridique. L'Église est reconnue, chaque Église, chaque communauté urbaine, chrétienne, est reconnue comme corps de la société, avec son cimetière, avec ses prêtres, avec ses fidèles. Donc véritablement une reconnaissance juridique de l'Église. Mais on va plus loin, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que l'on accorde à l'Église une mission spirituelle. On demande à l'Église de prier pour la paix, pour la prospérité de l'Empire. Et on confère donc, qui dit mission spirituelle, eh bien dit possibilité de réaliser cette mission spirituelle, et on va conférer aux prêtres chrétiens les mêmes privilèges que connaissaient les prêtres et les prêtresses païens. Mais, bien sûr, toute révolution doit se faire, surtout une révolution de cette taille. Hein. Pensons bien que nous sommes en train de bousculer une tradition qui a 7 ou 8 siècles d'enracinement. Le christianisme, à l'époque, c'est la modernité, c'est les petits nouveaux. Alors, eh bien, il va falloir passer par étapes à la conversion de l'Empire. C'est pas tout que l'empereur soit converti, il faut que l'Empire passe à la conversion. Il faut que chacune des institutions soit imprégnée par le catholicisme. Et Constantin va, par un ensemble de lois, timides au début, faire passer petit à petit le christianisme de l'état idéal, on pourrait dire, de l'état désincarné, une pratique cantonnée dans les églises chrétiennes, a véritablement un état concret, faire passer dans la législation impériale la réalité du christianisme. Alors pour cela, on peut suivre plusieurs itinéraires. Un itinéraire privilégié, parce que l'archéologie nous fournit abondance de matériaux, c'est l'itinéraire des monnaies. Alors on examine sur les monnaies les symboles que l'empereur a voulu imprimer. Et là, on note toute une évolution savante qui s'étale entre 315 et 324, qui petit à petit va évacuer les symboles païens, et ces choses faites en 324, et les remplacer par des symboles chrétiens. Nous voyons le chrisme, donc le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ, apparaître sur les monnaies en 315. Nous voyons ceci, c'est très drôle, c'est très habile en fait, une grande prudence politique là. L'utilisation de symboles qui sont à double vitesse, le symbole du phénix par exemple. Le phénix est un oiseau mythologique qui n'a jamais existé, qui est unique en son genre, qui meurt, qui brûle dans sa mort et qui ressuscite de ses cendres. Alors le phénix, c'est un symbole tout à fait mythologique, que seuls les petits-enfants païens croient, bien sûr que ça n'existe pas, mais c'est récupéré par les chrétiens dès 250 pour exprimer de façon cachée, nous sommes en temps de persécution en 250, pour exprimer le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité. Et là encore, nous avons un splendide phénix qui est dessiné sous la confession de Saint-Pierre. Saint-Pierre, représenté, croqué rapidement par un, un chrétien de l'époque, dans un mausolée païen, et au-dessus de la tête de Saint-Pierre, nous voyons le phénix, qui représente bien notre Seigneur Jésus-Christ, la tête de Saint-Pierre. Alors, eh bien, le phénix apparaît sur les monnaies, il est à la fois symbole païen, mais les chrétiens ne s'y trompent pas. C'est bien dans un sens chrétien que Constantin l'imprime sur les monnaies, là aussi à Constantinople, à partir de 324. Donc nous voyons une conversion progressive représentée par les monnaies, représentée par les lois. À partir de 318, eh bien, la juridiction des évêques est reconnue comme juridiction à part entière. Ce qui fait que les chrétiens, lorsqu'ils ont un différend entre eux, vont passer non plus devant des juges païens, mais devant les juges épiscopaux, devant les évêques de leur communauté. Et en 330, on ajoutera comme privilège que l'on ne peut pas faire appel contre cette juridiction épiscopale. Elle est souveraine. En 320, sont abolies les lois contre le célibat et contre le veuvage. Car l'empire romain païen est un empire qui connaît une crise démographique effrayante depuis le 1er siècle après Jésus-Christ, et les empereurs interdisent aux gens de ne pas se marier. Ce qui posait d'ailleurs, vous l'imaginez bien, une grave cas de conscience pour les prêtres, pour les vierges chrétiennes qui voulaient rester ainsi, qui voulaient se consacrer selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pas se marier, c'était se mettre sous le coup des lois, et les lois étaient appliquées. Et étaient appliquées sévèrement, c'est la peine de mort. Et dans un temps de persécution, les païens qui n'étaient pas fous savaient très rapidement reconnaître les chrétiens, ah ben c'est ceux qui ne sont pas mariés. D'où, grosse difficulté pour le célibat ecclésiastique, et on comprend tout à fait que la hiérarchie de l'Église, Occident comme en Orient, n'ait pas voulu imposer aux prêtres le célibat, car c'était, en temps de persécution, les vouer de façon claire et nette à la mort. 320, ces lois sont abolies. C'est un acte qui est essentiellement en faveur de la religion chrétienne. 321, c'est la proclamation du dimanche comme jour de repos. Comme jour de repos et comme jour où on doit honorer son Dieu. On doit honorer Dieu. Et puis tout un ensemble de lois morales, qui je ne vais pas rappeler, mais qui font passer petit à petit l'esprit du christianisme dans les lois. Par exemple, l'interdiction de marquer au fer rouge les esclaves à la figure. Évidemment, après on les reconnaissait facilement, un esclave en fuite était tout de suite vu. Constantin supprime cela par respect pour l'image de Dieu qui est imprimée sur la face de chaque homme. Et on pourrait aussi signaler toutes les donations qui ont été faites par l'empereur à l'Église, le palais du Latran, première cathédrale de la chrétienté. C'est le palais personnel de Constantin. Alors, tout était bien parti, si vous voulez, pour que le christianisme imprègne prudemment, doucement, mais réellement, tout l'empire chrétien. Mais hélas, les choses ne vont jamais comme on le voudrait. Il va y avoir cette terrible crise qui va secouer l'empire, qui va secouer le christianisme pendant un demi-siècle, c'est la crise arienne. Et le grand malheur, c'est que l'empereur Constantin, peut-être séduit par une certaine bénignité des évêques ariens, l'empereur Constantin va, à partir de 326, se laisser subjuguer par cette hérésie, qui fait que, soutenu par le pouvoir impérial, l'arianisme va régner en maître dans l'Église, va déchirer l'Église, et les évêques fidèles sont exilés, et surtout, on pourrait dire, surtout, les plans vont continuer à être brouillés entre la cité temporelle et la cité spirituelle. Car forcément, l'empereur va être en opposition avec le pape et va s'adjuger pour lui les pouvoirs spirituels. Et nous voyons un successeur de Constantin, l'empereur Constance, qui va avoir un long règne de près de 30 ans, régner comme un pape, exiler les évêques, exiler le pape lui-même lorsqu'il lui résiste, écrire des symboles de foi et les imposer à la croyance de tous ceux qui sont baptisés dans l'Empire chrétien. Nous avons là un empereur pape. Nous avons finalement comme résultat le fait qu'une religion en a chassé une autre. Le christianisme a chassé la mythologie païenne, mais c'est toujours l'empereur qui est le Pontifex Maximus. Et de fait, tous les empereurs, Constantin compris, gardent ce titre de grand pontife, de prêtre des prêtres. Et donc, nous n'avons, on pourrait dire, finalement pas trop progressé d'un pouce. La situation est tout aussi confuse. La situation politique, la situation religieuse est tout aussi confuse. Finalement, nous n'avons pas eu un changement de nature dans l'Empire. Nous n'avons eu qu'un remplacement donc, d'une religion par une autre. Nous ne sommes pas vraiment dans un empire chrétien. Il y a là véritablement un abus de pouvoir. L'empereur n'est pas le pape. Normalement, de fait, c'est ce qui se passe. Alors cette situation ne pouvait pas durer parce que nous savons que Dieu soutient toujours son Église, l'arianisme n'est en fait qu'une poussière de sectes qui vont s'éparpiller, se diviser entre elles. On compte 4 ou 5 credos différents, hein, selon que le Fils de Dieu, enfin que le Seigneur Jésus-Christ, le Verbe, est plus ou moins Dieu, plus ou moins égal au Père, de même nature, pas tout à fait de même nature, enfin. Grande division parmi les Ariens, et puis surtout, la Providence fait bien les choses, il y a eu une divine surprise. En 360, l'empereur qui succède à Constance, c'est un apostat, Julien. Julien l'apostat, qui a été élevé dans la religion arienne d'ailleurs, et qui va s'empresser de persécuter tous les chrétiens, tous azimuts, pourrait-on dire, ce qui finalement va faire l'affaire de l'Église catholique. Parce que le premier christianisme qui était en vue, c'était l'arianisme, et c'est eux qui ont pris le plus gros de la persécution. Julien ne règne que 3 ans, il est tué par les Perses dans une campagne en printemps 363. Finalement, il a donné un bon coup de balai. Et l'arianisme était moribond. Pourrait-on dire, c'est l'Église catholique qui va récolter tous les fruits. Et là, nous allons avoir, enfin, pourrait-on dire, le passage véritablement à un empire chrétien. Et cela se fera sous l'auspice de l'empereur Gratien, que l'on peut vraiment appeler le premier empereur chrétien. Non pas le premier chrétien empereur. On pourrait dire que c'est Constantin, ça n'est même pas vrai, ce n'est pas Constantin. Le premier chrétien qui a régné, c'est Philippe l'Arabe, au début du IIIe siècle, mais il n'a eu aucune action législative en faveur du christianisme. Le premier chrétien empereur, c'est vraiment Constantin qui fait passer le christianisme de l'état de tolérance ou de l'état de persécution à l'état véritablement juridique, reconnu. Mais le premier empereur chrétien, le premier empereur qui va régner en chrétien, c'est l'empereur Gratien, qui va très clairement instaurer cette distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, qui véritablement va séparer les pouvoirs politiques des pouvoirs religieux, laissant aux évêques, laissant aux papes entière liberté, entière souveraineté dans leur domaine spirituel. C'est l'empereur Gratien et l'éminence grise de l'empereur Gratien, c'est saint Ambroise, évêque de Milan, qui est vraiment la cheville ouvrière de ce travail. Saint Ambroise avait d'ailleurs commencé avant Gratien sous Valentinien Ier, son prédécesseur, et Gratien, lorsqu'il est nommé en 375 empereur d'Occident, eh bien, véritablement, nous allons avoir, entrons dans cette partie où Saint-Pierre est vraiment distinct de Rome, de la Rome païenne, de la Rome politique, plus exactement. En 375, c'est le coup de tonnerre dans le ciel païen. Gratien refuse le titre de Pontifex Maximus. C'est une petite chose. Petite chose. Mais il ne se dit plus grand prêtre. Il renonce à tout pouvoir spirituel. Petite chose. Petit décret, mais une grande importance, une grande influence. Et pour bien marquer cette décision de séparer rigoureusement ce pouvoir politique du pouvoir spirituel, de laisser toute liberté au pouvoir spirituel, en 382, dans le Sénat, il va ôter l'autel de la victoire. Jusqu'à 382, même s'il y avait des sénateurs chrétiens, eh bien, avant chaque séance du Sénat, les sénateurs païens allaient brûler de l'encens devant l'autel de la victoire. En 382, l'autel est rejeté. Et ça va faire vraiment, véritablement un tollé. C'est la dernière grande bagarre du paganisme. Il y en a des pétitions. Le préfet du Sénat écrit toute une harangue. Mais Gratien, soutenu par Saint Grégoire, ne lâchera pas véritablement cette fois-ci la confusion entre temporel et spirituel est ôtée. Maintenant, eh bien, les religions païennes vont vivoter. Et bien des temples vont fermer boutique, fermer la porte, parce que n'y a plus de victimes à sacrifier. Forcément, on n'a plus de terre, on n'a plus de troupeaux. Et c'est le commencement, véritablement le commencement de la fin pour le paganisme. L'arme économique, voyez-vous, liée à l'arme juridique, finit d'asphyxier le paganisme à la fin du IVe siècle, ce qui permettra à Théodose, en 392, de la façon la plus naturelle possible, d'interdire tout simplement tous les sacrifices païens, tous les sacrifices extérieurs païens. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de croyants païens, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de manifestations extérieures du paganisme. Nous avons là, en marche, nous avons là, plus exactement, constitué le bras temporel de l'Église, c'est-à-dire l'Empire. Alors, eh bien, c'est toute une suite de lois, toute une suite de mesures administratives et disciplinaires qui vont être prises par le successeur de Gratien, l'empereur Théodose, qui résolument, donc, nous voyons la perspective tout à fait inversée, met au service du pouvoir spirituel le pouvoir temporel. Et de façon très théologique, on peut s'exprimer ainsi. En février 380, il impose à tous les baptisés de l'Empire, il impose la foi chrétienne, c'est-à-dire, précise-t-il, la foi que professe l'évêque d'Amaz. L'évêque d'Amaz, c'est l'évêque catholique, l'évêque de Rome catholique. C'est bien tranché clairement entre les catholiques et les ariens. L'arianisme est hors la loi. C'est un acte véritablement du pouvoir temporel mais du pouvoir temporel qui est au service du pouvoir spirituel. En 386, nous avons le premier exemple d'un évêque, évêque Marcellus d'Apamée, qui va demander le secours, qui va faire appel au bras séculier pour détruire le temple d'Apamée, le temple païen d'Apamée. Je peux vous lire d'ailleurs un petit peu comment se passait, ça vous donnera des idées, comment se passait dans les temps de chrétienté naissante, la destruction des temples païens. Je vais vous raconter la destruction d'un temple, du temple d'Isis, à Philée, dans le sud de l'Égypte, qui s'est passé bien tard d'ailleurs, entre 535 et 537. Voilà comment on procédait. Les récits que nous avons de fermeture de temple nous prouvent on amenait sur place des forces imposantes, ordinairement dirigées par le gouverneur de la province. Il faut se représenter comment les choses se passaient. La troupe prenait position autour du temple pour contenir la foule. Lecture était donnée de l'ordre impérial. C'est une action impériale, une action du pouvoir temporel, du pouvoir politique. Puis un groupe de soldats pénétrait dans l'édifice. Ils s'y heurtaient parfois à une résistance, car les prêtres païens n'étaient pas moins prêts à défendre leur dieu que les prêtres chrétiens le leur. À Gaza, par exemple, vers 400, les prêtres du dieu Marnas avaient barricadé les portes du temple avec des blocs de pierre qui tinrent les soldats en échec pendant plusieurs jours. La troupe avait ensuite pour mission de purifier les lieux, c'est-à-dire avant tout d'en extraire les idoles. Cette besogne était laissée volontiers aux gens de guerre, car il fallait un certain courage, comme on peut en juger par le récit que Ruffin nous a laissé de la prise du Sérapéum d'Alexandrie entre 400 et 412. Lorsque le premier soldat pénétra dans l'édifice, la foule poussa un cri d'effroi. Tous, païens et chrétiens, s'attendaient à voir la terre s'effondrer sous lui, ou le ciel l'écraser, dit qu'il porterait la main sur l'idole. Dieu pour les uns, démon redoutable pour les autres. Puis, quand il reparut, le soldat, avec la tête de la statue, ce furent d'autres cris de triomphe chez les chrétiens et chez les païens, bien sûr, de déception, peut-être de scandale et de colère. Alors, le matériel sorti du temple était trié, les métaux précieux étaient soigneusement récupérés pour le trésor impérial, et c'est ainsi que, au temple de Philée, les idoles furent envoyées à Byzance, où elles entrèrent sans doute à la monnaie. On va les fondre et on va faire de l'argent. Si les statues n'avaient qu'un revêtement d'or ou d'argent, alors on les dépeçait ostensiblement devant la foule et les parties en bois étaient jetées dans le tas des meubles et ustensiles sans valeur que l'on mettait au feu. On devine l'effervescence que de telles scènes provoquaient dans la population, les désordres qui pouvaient s'en suivre quand la troupe était trop peu nombreuse ou mal commandée. Donc voilà le pouvoir temporel se mettant résolument, peut-on dire, au secours, à l'aide du pouvoir spirituel. Et ainsi, nous rentrons véritablement à la fois dans cette ère de la chrétienté où est bien distingué le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. Chacun est roi en son domaine, en son pouvoir temporel de la cité temporelle ou en son pouvoir spirituel de la cité céleste, mais où les deux sont intimement unis. Et cette doctrine des relations entre l'Église et l'État va être exprimée noir sur blanc très rapidement par saint Augustin. Il est important de se référer à saint Augustin parce que c'est le grand docteur du début du l'extrême fin du IVe siècle et surtout du début du Ve siècle. Et c'est lui qui, dans cet ouvrage magistral qu'on appelle La Cité de Dieu, règle parfaitement les rapports de cette situation tout à fait nouvelle, tout à fait inédite, entre cet empire païen qui autrefois était dirigé par des prêtres, par un empereur prêtre, et puis maintenant, la situation est tout à fait différente, tout à fait distincte. Nous avons le pouvoir spirituel d'un côté, le pouvoir temporel de l'autre, avec deux fins tout à fait particulières. L'Église s'attachant à amener les âmes au ciel et ayant pouvoir pour cela, ayant mandat pour cela, c'est la cité surnaturelle, l'Église est une société parfaite, c'est-à-dire qu'elle a les moyens d'obtenir sa fin, son but. Elle a les moyens, sacrements, doctrine, prêtre pour une hiérarchie, gouvernement pour diriger vers le but qui est le ciel. Et puis cette cité céleste, terrestre, qui elle aussi est une cité parfaite dans son genre. Oui, la nation est tout à fait une société qui a les moyens d'obtenir sa fin, mais sa fin est subordonnée, son but est subordonné au but spirituel de l'Église, c'est d'assurer la paix, merci bien, permettant justement l'épanouissement de l'Église. Alors je vais me permettre simplement de lire saint Augustin. Cela est très clair, donc ça se passe de commentaires. Or, eh bien, bien sûr, saint Augustin se fonde sur saint Paul qui nous rapporte qu'il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu. Non est potestas nisi ad Deo. Il n'y a pas de puissance. Donc toute autorité, qu'elle soit surnaturelle dans l'Église ou qu'elle soit naturelle dans la société, vient de Dieu. Et comme telle, elle doit être honorée. Même s'il y a des autorités qui sont par nature supérieures à d'autres. Par nature, l'autorité du roi est supérieure à l'autorité du père de famille, parce que eh bien, le roi commande à toutes les familles du royaume. Le père de famille n'a qu'un pouvoir sur ses rejetons. Et bien pourtant, toute autorité doit être honorée. Et saint Augustin nous dit que Dieu a organisé son Église de telle sorte que toute puissance établie de ce monde doit être honorée, même par ceux qui sont meilleurs qu'elle. Et vous voyez, là, c'est véritablement un appel, on peut dire, à ceux qui possèdent l'autorité des autorités suprêmes, à user de ces autorités suprêmes en gardant tout honneur pour les autorités inférieures, en n'écrasant pas les autorités inférieures. C'est aussi un appel aux évêques qui possèdent par nature cette autorité spirituelle qui transcende toute autorité. C'est un appel aux évêques à honorer les magistrats temporels qui ont une autorité qui vient aussi de Dieu et qui est utile. Donc vous voyez, distinction et on pourrait dire égal honneur, enfin honneur en tout cas, également à toute autorité, parce que toute autorité est constituée de Dieu. Ensuite, saint Augustin nous parle de l'harmonie des deux cités. Et il le dit de façon savoureuse en faisant parler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son commentaire sur le psaume 47. Pour moi, dit le Christ, j'ai été établi roi, et celui qui m'a sacré me donnera pour héritage les confins de la terre. Pourquoi, ô roi terrestre, Portez envie à ce roi. Voyez-le sans jalousie, car il est bien différent des autres. Ne craignez pas qu'il vous enlève votre royaume temporaire. Il vous donnera au contraire un royaume, mais dans les cieux, dont il est le roi. Et les rois temporels sont les sujets du pouvoir spirituel. Et nous verrons Théodose faire pénitence devant saint Ambroise, qu'il excommunie. Vous ne rentrerez pas dans l'Église tant que vous n'aurez pas fait pénitence pour les massacres que vous avez faits à Thessalonique. Et sur la cendre et dans le sac, l'empereur viendra s'humilier devant le pouvoir spirituel de saint Ambroise. Mais aussi, saint Augustin indique bien que le pouvoir spirituel doit, d'une certaine façon, obéir dans ce qui est propre au pouvoir temporel. C'est dans la Cité de Dieu, au livre 19. Aussi, tant qu'au sein de la cité terrestre, l'Église vit captive et passe le temps de son exil, elle n'hésite pas à obéir aux lois de la cité terrestre, d'après lesquelles s'administre tout ce qui est approprié au soutien de cette vie mortelle. Et puisque la mortalité est commune à l'une et à l'autre société, elle veut, dans ce qui a rapport aux intérêts présents, conserver la bonne harmonie entre elle et la cité terrestre. Donc, voyez, l'Église a besoin de cette paix que lui procure le pouvoir politique. Et inversement, le pouvoir politique doit exprimer de façon publique son culte, un culte chrétien. Saint Augustin, toujours lui, dans son épître 151, nous appelons heureux les princes qui se servent de leur puissance pour développer au plus haut point le culte de Dieu et se faire les serviteurs de sa majesté qui craignent Dieu, qui l'aiment, qui l'adorent et qui préfèrent à leur royauté la possession de ce royaume spirituel où les compétitions ne sont point à craindre. Qui préfèrent à leur royauté la possession de ce royaume spirituel, c'est-à-dire qui sont prêts à agir non pas pour totalitarisme de leur pouvoir, mais qui sont prêts à agir en fonction, comme roi, en fonction des lois de l'Église, en fonction de ses dogmes, en fonction de sa morale. Et on pourrait continuer, on pourrait lire tout le livre sur les services que l'État doit à l'Église. Non pas des services financiers, saint Augustin n'attend pas ça en premier de l'empereur. Au contraire, il dit saint Paul vivait de ses mains, le travail de ses mains. Et si j'avais du temps, je ferais bien comme lui. Et de fait, il n'en avait pas. Mais il attend du pouvoir la fermeture des temples païens, qui sont un foyer d'immoralité, parce que ces cultes païens, il ne faut pas se faire d'illusions, c'était plus des cultes sensuels que des cultes spirituels, foyer donc d'immoralité qui, rien que pour cela, devrait être fermé. Et puis d'abord, c'est complètement ridicule, ces fables mythologiques sont la bêtise même, saint Augustin est particulièrement dur, donc il faut fermer cela. Fermer les temples. Il attend de l'État aussi que les Juifs empêchent de reconstituer leur royaume, empêchent que les Juifs ne puissent avoir un pouvoir de commandement, un pouvoir d'enseignement, de façon à ce qu'ils ne donnent pas, qu'ils ne livrent pas leurs erreurs à d'autres. Mais saint Augustin, toujours très prudent, dit il ne faut pas exterminer les Juifs, et saint Thomas d'Aquin reprendra sa loi, son idée, parce que, dit-il, la loi, les Juifs, dans leur loi, dans leur livre, leur Ancien Testament, eh bien, sont une preuve apologétique que nous, les chrétiens, nous avons la vérité. Et donc, comme les juifs sont l'image, en quelque sorte, l'image tardie, l'image déviée, mais ils restent quand même d'une certaine façon l'image obscure de nous chrétiens et de ce côté-là. Nous ne devons pas les exterminer. Et saint Augustin conclut en disant que l'empereur doit poursuivre, bien sûr, schisme et hérésie, parce que dans une société chrétienne, le schisme qu'il y a dans l'Église se répercute obligatoirement sur la société temporelle. Et ça, c'est toute l'histoire des hérésies du Moyen-Âge qui nous le prouve, qu'ils soient manichéens, qu'ils soient protestants, qu'ils soient orthodoxes. Tous les schismes ont amené dans la cité temporelle, rien que sur le plan de la paix temporelle, ont amené troubles, guerres, massacres. Et c'est pour cela que tout simplement il faut poursuivre les schismatiques, les hérétiques. C'est assurer non seulement la paix de l'Église, mais la paix de l'État. Il faisait bien sûr appel tout spécialement contre la grande hérésie qu'il connut, l'hérésie des donatistes, qui avaient de véritables troupes d'assaut, les circoncellions qui venaient brûler les églises et troubler les offices chrétiens, les cimetières. Et voilà ce que Augustin écrit. « La mansuétude de l'Église catholique n'aurait nullement cherché à réveiller les ordonnances des empereurs. Si vos clercs et vos circoncellions, en troublant notre repos par leur violence, leur méchanceté, leur furie, leur dévastation, ne nous avaient point mis dans la nécessité de rappeler et de faire revivre ces ordonnances contre vous. » Il s'adresse à Janvier, qui était évêque donatiste d'Afrique. Donc, eh bien, nous faisons appel à la répression, au pouvoir temporel, parce que, eh bien, tant que hérétique, vous avez mis, par vos faits et gestes, vous avez mis la révolution dans la société. Donc voyez que très rapidement, grâce au génie de saint Augustin et grâce aussi, il faut le dire, à ce grand empereur chrétien que fut Théodose, eh bien, au début du 5e siècle, nous avons véritablement les bases solides, les bases juridiques, les bases dogmatiques pour que s'épanouisse la chrétienté. Et malgré le terrible ravage que feront les barbares pendant tout ce 5e siècle, eh bien, cette chrétienté restera, demeurera comme un roc. Il y aura toujours cette union entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et les barbares, eh bien, passeront par là. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous signaler comme conclusion? Enfin, allez-vous dire, eh bien, j'essaierai de commenter ces quelques versets de saint Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Chapitre 2, versets 6 et 7. Saint Paul parle de la fin des temps. Il parle de l'Antéchrist. L'Antéchrist doit venir. Il ne viendra point, cependant, avant que ne soit venue l'apostasie et que n'ait paru l'homme du péché, le fils de la perdition, qui se fera passer lui-même pour Dieu, allant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire adorer. Alors les Thessaloniciens étaient troublés de cela. Il semble qu'il devait y avoir de grosses discussions dans la communauté, et c'est pour cela qu'il leur écrit. Et saint Paul était passé auparavant et il les avait instruits sur ce sujet, et il rappelle l'instruction qu'il a donnée. Et c'est pour nous dommage, parce qu'il ne va pas aller plus loin, il va nous laisser deviner. « Ne vous souvient-il pas que lorsque j'étais encore avec vous, dit-il, je vous disais ces choses. Et vous savez ce qui le retient maintenant, afin qu'il paraisse en son temps. Car déjà s'opère le mystère d'iniquité, seulement que celui qui tient maintenant tienne jusqu'à ce qu'il disparaisse. Alors, ces phrases sont assez obscures. Saint Paul nous dit, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, quelque chose d'abord, ensuite il y a quelqu'un, ou plutôt quelqu'un d'abord, ensuite quelque chose, qui empêche l'Antéchrist de venir. Quel est ce quelque chose? Quel est ce quelqu'un? Eh bien, Saint Paul nous dit, eh bien, rappelez-vous, mais nous n'étions pas là lorsqu'il prêchait vive voix aux Thessaloniciens. Alors, les pères de l'Église et les commentateurs se sont arrachés les cheveux, disant, mais quel est ce quelque chose? Quel est ce quelqu'un qui est comme en train de mener un combat actuellement contre les tenants d'iniquité, et qui empêche véritablement l'iniquité de régner? Eh bien, les pères de l'Église se sont mis d'accord pour dire que ce quelqu'un, c'était l'Empire chrétien. Alors, on peut discuter de leur opinion. Parce que de fait, l'Empire chrétien, il est mort. L'Empire est mort en Occident en 476. Il a vécu qu'à un cas jusqu'au 15e siècle en Orient. Et puis, il est passé à l'orthodoxie entre-temps. Alors, on s'est dit, c'est peut-être pas l'Empire chrétien, mais c'est l'Empire, c'est tous les royaumes, c'est le pouvoir temporel qui vit en fonction des lois chrétiennes. Saint Thomas d'Aquin dit qu'effectivement, c'est une opinion qui peut se tenir. Mais ce qui est intéressant, je pense, de voir, c'est que si les pères de l'Église ont véritablement pensé que c'était l'Empire chrétien, c'était donc un pouvoir temporel qui empêchait l'Antéchrist de venir, c'est bien parce qu'ils avaient sous les yeux qu'ils avaient vécu, pour certains, cette extraordinaire révolution de cette société complètement païenne, de la confusion extrême qui, tout d'un coup, commence à vivre réellement et à être véritablement un foyer de paix où ces deux colonnes se soutiennent mutuellement, l'Église spirituelle et la société temporelle. Et on peut y comprendre qu'il se soit dit, oui, véritablement, ça y est, l'Église a atteint son état normal. Elle n'est plus dans un état de violence, elle est véritablement dans son état normal, unie à la société politique, à une société politique qui est favorable, qui vit selon les lois, qui vit selon l'Évangile. Ainsi, ils se sont dit, bien oui, ça ne peut être que cette société chrétienne qui retient l'Antéchrist, et l'Église sans la société temporelle, soit opposée, soit séparée, soit coupée de la société temporelle, ne peut être, ne pourra être qu'une société, qu'une Église qui vit dans un état anormal, un état de violence. Voilà cette vision de l'état temporel qui a captivé les pères de l'Église, l'état temporel chrétien, au point qu'ils se sont dit, c'est le grand responsable, c'est ce qui empêchera l'Antéchrist ou les Antéchrists de venir se faire adorer comme des dieux sur la terre. Alors, que ce soit pour nous un encouragement, peut-être dans notre vie temporelle, notre vie civique, à essayer de refaire ce que notre pauvre pays, 1500 ans après son baptême, a refaire cette cité de Dieu que notre pays a promis. Donc il y a 1500 ans, cette année, pas cette année, mais l'an prochain. Oui, cette fameuse histoire, oui, de nouvel empereur d'Occident. Constantin reste un modèle au point qu'on lui a prêté beaucoup de choses, même la fameuse donation de Constantin, comme quoi il aurait donné des pouvoirs à des états temporels au pape, hein, alors que cette donation est tout à fait fausse, bien sûr. Mais c'est certain que c'est toujours la même, c'est toujours la même tradition à partir de ce moment-là, même si on a peut-être un peu trop prêté à Constantin, qui de fait n'avait probablement pas une pensée politique aussi équilibrée, et loin s'en faut, de celle de Saint-Augustin et de tous les pères de l'Église qui ont suivi. Personnellement, je pense qu'on pourrait prêter tout autant, ou même si ce n'est plus, à Gratien, qui a véritablement a saisi la chose. Maintenant, si Gratien l'a saisi, c'est grâce à Saint-Ambroise, qui a eu un rôle particulier. Il n'y avait pas de Saint-Ambroise au temps de Constantin. Ceci explique peut-être cela, même si Constantin a toujours été entouré par des conseillers qui étaient religieux. Ausius de Cordoue, l'évêque de Cordoue, a été son grand conseiller pendant toute sa vie, avant même qu'il soit chrétien, avant même 300. Alors Charlemagne se rattache à cette tradition, et il va tout faire justement pour assurer la paix de l'Église, jusqu'à prendre des décisions tout à fait, dans des domaines tout à fait religieux, hein, même peut-être un peu trop forcé, parfois, empiétant un peu son rôle. C'est toujours difficile d'avoir un équilibre, c'est clair. Mais c'est lui qui, par exemple, va imposer la liturgie romaine en France, pas en Gaule, par exemple, comme grand foyer, comme facteur d'unification de son empire, qui a une idée temporelle derrière. C'est lui qui va s'occuper de la conversion des Germains, conversion parfois un peu trop musclée, un peu trop forcée. Alors là, effectivement, il est allé trop loin. Un empereur comme Justinien au 5e siècle, lui aussi, il a dépassé les bornes. On baptise à tour de bras. On baptise de force. Alors là, nous risquons l'hypocrisie. On ne peut pas forcer au baptême. On ne peut pas forcer à la foi. Il n'y a que la grâce qui est donnée de Dieu. On peut, le pouvoir temporel doit créer le maximum en faveur de l'Église et contre tout ce qui peut s'opposer à la vérité. Mais on ne peut pas rentrer jusque dans le cas de conscience. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans une société chrétienne qui se respecte, tout culte étranger doit être absolument banni. Sauf s'il y a véritablement une trop grosse communauté. C'est pour cela qu'on a toléré pendant 200 ou 300 ans des temples païens. Parce que on savait bien que là, il n'y avait pas encore assez de chrétiens, si vous voulez, pour contrebalancer. Mais c'est une tolérance. Ce n'est pas un droit pour les païens, pour les schismatiques ou les hérétiques. Voilà. On n'a jamais. C'est ça. On n'a jamais été aussi près de la venue de l'Antéchrist. Et demain, on sera encore plus près, je peux vous dire. Oui, oui et non. Le président de la République peut se convertir du jour au lendemain. Inox in vinces. De fait, je pense un seul président, ça ne serait pas suffisant. Il faudrait, par exemple, que bon Dieu fasse son miracle à l'ONU pendant une séance pour qu'on ait une certaine chance d'avoir un consensus de chrétien, je pense. Maintenant, c'est clair que...
On a l'impression que le pouvoir temporel repose sur quelques familles.
Bon, il doit rester quelques petits reliquats dans certains pays, mais c'est clair que nous n'avons plus de cité temporelle. C'est ça.
Les rapports entre
Il n'y a plus de cité temporelle chrétienne parce que, de fait, il n'y a plus véritablement de pouvoir spirituel qui se respecte, c'est clair aussi. Maintenant, attention, parce que ce que disent les pères en disant bah, c'est l'empire chrétien qui empêche l'antéchrist de venir, ça n'est qu'une opinion. Alors là où il m'a semblé intéressant de soulever cette opinion, c'est parce qu'ils étaient frappés. Ils ont été frappés devant cette émergence d'une véritablement une société chrétienne. Ils se sont dit, mais vraiment c'est extraordinaire. Enfin, bon. Alors ils se sont dit, bah, c'est ça. Et peut-être que dans leur idée d'ailleurs, en parlant d'empire chrétien, ils entendaient dans l'empire chrétien l'Église. Et que nous aurions là une appellation générique pour qui recouvrirait à la fois la société de l'État et la société de l'Église. C'est possible. Mais bon, ça n'est qu'une opinion. Saint Thomas d'Aquin la présente comme une opinion. Il présente comme autre opinion en parlant de l'Église en tant qu'institution, institution ecclésiastique. C'est ça. Enfin, nous ne sommes pas dans les desseins du bon Dieu. Les deux pouvoirs sont tout à fait en collaboration étroite dans une société normale. Sinon, ils seront obligatoirement dans un état de violence, l'un par rapport à l'autre. Et c'est notre cas. Nous sommes dans un état de... L'Église est dans un état de violence ici, en France et dans tous les pays occidentaux. Alors, de fait, il y a une espèce de modus vivendi libéral. Mais en fait, c'est parce que la société chrétienne, l'Église chrétienne, absorbé, a été paganisé de l'intérieur. La grande différence, c'est qu'il y a une distinction dans l'empire chrétien qui n'existe pas dans tout autre empire. C'est cette distinction entre deux sociétés qui sont parfaites dans leur ordre, mais qui sont unies pour collaborer, parce que ces deux sociétés ont pouvoir sur les mêmes parties, sont constituées des mêmes individus. C'est nous. Mais elles sont distinctes, elles ont chacune une fin propre. L'une, c'est la paix temporelle, l'autre, c'est la béatitude réelle, spirituelle, Dieu. Et les deux finalités se hiérarchisent, se complètent, se soutiennent, l'une l'autre. Dans les autres empires, quels qu'ils soient, que ce soit des empires à dominante, on va dire théocratique, ou à dominante laïque, eh bien, il y a confusion d'une façon ou d'une autre. En Chine, il y a confusion. L'État est complètement païen, pas de problème. Mais ben, le christianisme, il y a une église nationale chinoise qui est complètement dans la main du pouvoir temporel. Au temps de l'Empire romain, eh bien, c'était l'empereur qui était le grand prêtre. Et on peut prendre tout un ensemble d'exemples. C'est toujours la confusion. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir, ils n'ont pas la finalité ultime, ils n'ont pas le bien ultime de Dieu. Ils n'ont pas ça en vue. Alors, eh bien, les plans se confondent. L'homme n'a plus qu'une seule fin, c'est une fin temporelle. Et alors, bon, la religion, bah, c'est une espèce de morale, et ça sert dans la fin temporelle. C'est vrai que la morale sert dans la fin temporelle, dans le but temporel, mais pas que ça. C'est aussi le développement des vertus, c'est aussi ce qui nous fait l'épître de hier, hein, Saint-Jacques. Il faut agir, pas simplement avoir la foi, mais on agit par les vertus, on pose de bonnes œuvres. Donc la grande distinction, et c'est d'ailleurs même un point théologique, ça n'est même pas un point philosophique. philosophiquement, on ne peut pas arriver à véritablement distinguer ces deux, plans, le plan spirituel et le plan temporel. Il n'y a véritablement que par la foi et donc que par la révélation et donc que dans une société chrétienne, catholique, que l'on arrive à cette distinction entre ces deux sociétés parfaites, pourtant intimement liées. Voilà le grand, ce qu'on pourrait dire, la nature, la différence spécifique de l'empire chrétien par rapport à toutes les autres sociétés temporelles. Voilà, je crois que je vais vous laisser.